j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui a déjà eu l'occasion d'avoir été discuté, mais je voulais revenir à travers justement ces quelques années où j'ai travaillé sur mon doctorat. Je me suis intéressé sur les questions de liens qui ont été faits entre les accords de commerce et les normes du travail, et plus particulièrement sur comment les États-Unis ont adopté ce qu'on appelle dans le jargon des clauses sociales. Qu'est-ce qui vient finalement expliquer l'émergence de ces clauses sociales? Et à travers cette étude, bien évidemment, j'étais amené à travailler sur l'ANACT, l'accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, qui vient couvrir les questions de normes du travail en parallèle à l'ALENA. Donc, je me suis interrogé à travers la présentation que je vais faire sur cet outil qui est l'ANACT, sur la façon dont tu as émergé cette institution, mais aussi sur le bilan qu'on peut faire 20 ans après l'adoption de l'ALENA. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont venues nourrir ma réflexion. Comment ça se fait que les États-Unis, un pays qui pour certains n'est pas le paradis des travailleurs, où il y a des conditions de travail pas toujours faciles et des transitions antisyndicales relativement marquées, comment se fait-il que ce pays-là était aussi actif dans la promotion des clauses sociales? Par ailleurs, plus particulièrement dans l'ALENA, quel est le projet qui a été défendu dans la promotion de ces clauses sociales et quel a été le résultat? C'est surtout sur ce point-là que je reviendrai aujourd'hui. Essentiellement, pour couvrir la littérature théorique sur le pourquoi des clauses sociales, il y a deux points de vue qui reviennent. Un qui vient dire que la clause sociale, c'est une forme de protectionnisme, qui dit simplement que c'est des groupes, les syndicats pour aller vite, qui défendent le blocage des marchés. Et de l'autre côté, des approches critiques qui viennent dire que c'est de l'impérialisme, c'est des pays du Nord qui viennent imposer les normes du travail aux pays du Sud. C'est pas dans ces optiques-là que j'ai travaillé. À mon sens, du point de vue des clauses sociales promues par les États-Unis, ce que j'ai défendu, c'est l'idée selon laquelle ce sont des clauses qui proviennent de la société civile américaine, de groupes qui sont d'inspiration progressiste et qui veulent, en quelque sorte, réussir à intégrer les questions sociales lorsqu'on en vient aux phénomènes et aux questions d'intégration. Et donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce que l'ALENA a représenté dans cette stratégie et quel a été le résultat, finalement, sachant que, essentiellement, c'est un résultat relativement décevant, mais qu'il ne faut pas complètement non plus déconsidérer. Donc, on va essayer de voir comment se construit cette idée autour de la clause sociale. Et j'ai pris trois variables à travers un cadre institutionnaliste pour expliquer l'émergence des clauses sociales. Ce n'est pas quelque chose qui émerge de nulle part, ça vient d'une histoire, d'un processus dans lequel il y a des débats d'idées. Et pour défendre les clauses sociales, je prétends que l'idée qui est en arrière, c'est ce que j'appelle l'internationalisme social, qui est en fait l'idée d'encadrer les marchés à l'endroit où ils sont placés, c'est-à-dire si c'est des marchés nationaux, ça prend des réformes nationales, et si c'est des marchés internationaux, transnationaux, ça prend des règles qui viennent avec, à savoir des règles globales ou régionales pour ce qui est de l'ALENA. Les institutions, donc l'émergence de politiques sociales à différentes échelles, et les intérêts communs des groupes se sont mobilisés pour défendre les idées que j'ai brièvement présentées. Donc, pour simplifier les différents points que je vais présenter, je vais revenir sur le contexte d'apparition de l'ANACT, qui me semble absolument fondamental pour comprendre le bilan de cette initiative, voir quels sont différents apports et limites de cet outil-là, et en terminer avec certaines conclusions que l'on peut tirer vis-à-vis de l'ANACT. Alors, pour ce qui est du contexte pré-ALENA, je vais aller assez vite, simplement en disant que la clause sociale et l'idée de relier commerce et normes du travail, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On pourrait remonter au XIXe siècle, ou plus simplement dès l'émergence de l'ordre international après la Deuxième Guerre mondiale, la question était déjà présente dans les négociations, mais elle ne s'est jamais véritablement matérialisée. Cette question a été laissée de côté pendant une ère que j'appellerai libéralisme enchâssé, qu'on voit sous les auspices du keynésianisme ou des modèles de développement endogènes dans les pays en développement. Cette ère-là, c'est l'ère où justement il y a des droits sociaux nationaux qui apparaissent et il y a une remise en cause progressivement dans les années 80. Et c'est là qu'émerge l'ALENA en tant que phénomène économique qui vient caractériser une nouvelle politique commerciale. Pour s'intéresser du côté américain, cette nouvelle politique commerciale, elle est le fruit d'une administration qui a marqué l'histoire, l'administration de Reagan, que l'on qualifie généralement de néolibérale, qui a mis en place des politiques publiques allant dans ce sens-là, et qui a redirigé la politique commerciale dans quatre directions. L'approfondissement de la libéralisation dans des secteurs nouveaux comme les services et l'agriculture, la demande explicite de créer des nouvelles règles. Les règles, bien évidemment, c'est une administration conservatrice, c'est des règles favorables aux entreprises. Donc on va parler des investissements, de la propriété intellectuelle, de règles qui ont moins eu d'impact jusqu'à maintenant sur les questions des marchés publics et de la concurrence. Et de l'autre côté, une demande accrue de réciprocité et, nouvelle chose pour les États-Unis, le bilatéralisme qui va venir avec l'accord avec Israël, le Canada, puis l'ALENA. Et c'est dans ce contexte-là que va émerger les clauses sociales, et plus particulièrement, c'est en réaction avec cette nouvelle façon de construire l'économie politique des États-Unis et l'insertion économique internationale de l'économie américaine, que va émerger des mouvements qui vont demander l'émergence de clauses sociales. Pour aller vite, du point de vue des mouvements sociaux, il y avait deux options qui se dégageaient. Une fraction significative des syndicats se sont engagés à ce moment-là dans la défense du paradis keynésien perdu. L'idée étant, on avait des marchés relativement protégés et des protections sociales qui venaient avec. Avec le libéralisme, avec le néolibéralisme, avec les firmes transnationales, on a rompu avec cette façon de faire les choses. Il faut retourner là où on était auparavant. Et il y a la deuxième option, qui est celle que je présente ici, de l'internationalisme social, qui cherchait à dire le marché est global. En conséquence, il faut trouver les énergies, les ressources pour mettre en œuvre des règles globales. On a ouvert la boîte de Pandore des règles concernant l'investissement, la propriété intellectuelle, donc celles qui concernent les entreprises. Pourquoi ne pas appliquer la même logique et essayer de trouver les moyens de créer des règles sociales à l'échelle des accords commerciaux. Donc c'est ça, cette dynamique-là, qui va émerger et qui va prendre racine dans la politique commerciale des États-Unis dès les années 80. Ça va commencer avec les accords et les lois sur les préférences commerciales unilatérales, et le débat va émerger très rapidement autour de l'ALENA. L'ALENA, bien évidemment, va susciter tout un ensemble de critiques de la part des mouvements sociaux, des syndicats en particulier, particulièrement dans la version proposée par Bush, donc celle qui a été l'objet des négociations qui arrivera au texte final. Essentiellement, trois critiques ont été adressées par les syndicats et les associations à l'égard de l'ALENA. Premièrement, les questions d'emploi, la question des délocalisations d'emplois en direction principalement du Mexique. Des questions et des raisons humanitaires que l'on va retrouver, à savoir l'idée que ce qui va se passer, c'est qu'on va transférer ces emplois, mais aussi offrir des conditions de travail déplorables aux travailleurs mexicains. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que l'ALENA produisait des règles du jeu excessivement favorables aux entreprises et qu'il n'y avait pas de contrepartie sociale. Donc, je ne vais pas insister, mais je pourrais donner trois citations qui permettent d'illustrer ça. Celle, premièrement, d'un dirigeant de la FLCIO qui revenait sur les deux premiers arguments. Le Mexique, en quelque sorte, c'est une fuite de tout un ensemble d'emplois vers ce pays-là, mais aussi des emplois qui vont se diriger avec des conditions de travail déplorables et des questions de santé et de sécurité qui viennent se poser. Une autre citation d'un autre dirigeant de la FL-CIO qui venait de dire que d'un côté, on a le droit des entreprises au sein d'Amiens, et de l'autre côté, ben, les travailleurs qui sont laissés pour compte. Et en dernier lieu, et c'est là où vient la solution proposée par certains groupes, hein, c'est une citation de Laurie Wallach qui dirigeait le Public Citizen et qui disait la chose suivante: ce qu'on est en train d'assister à l'échelle régionale, c'est ce à quoi on a assisté au 19e siècle aux États-Unis. Une concurrence vers le bas pour les travailleurs entre États, hein, qui se faisait à l'intérieur, hein, de l'économie américaine. Et pour pallier à ça, il y a eu, durant le New Deal, des lois du travail fédéral qui venaient, en quelque sorte, pallier, hein, la situation pour éviter cette concurrence vers le bas à l'intérieur des États-Unis. Et il faudrait, en quelque sorte, réussir à faire la même chose, au minimum, hein, du point de vue des travailleurs. Alors, cette question-là, elle va rester en suspens. Hein, bien évidemment, beaucoup d'acteurs engagés dans les négociations d'Aléna vont être contre cette hypothèse-là. Les gouvernements canadiens et mexicains, hein, le gouvernement mexicain qui était parmi les plus fervents défenseurs de cet accord de libre-échange, le gouvernement canadien conservateur de l'époque qui ne voulait pas entendre parler de ces fameux droits du travail. Il faudra attendre quelque chose de nouveau, hein, pour que cet accord parallèle apparaisse, à savoir l'élection de Clinton, qui, hein, afin de pouvoir être élu président, avait ménagé à la fois le milieu des affaires en s'engageant à signer l'ALENA, mais pour ménager de l'autre côté, en partie, hein, sa base électorale, constituée des cols bleus, a promis l'émergence d'accords parallèles, hein, significatifs concernant l'environnement et les normes du travail. Hein, donc c'est dans cette direction, hein, c'est grâce à son élection qu'a émergé les fameux accords parallèles, sachant que les forces progressistes ont, à travers cet engagement, hein, foncé dans la porte pour être capables de faire passer, hein, leurs revendications d'une ALENA et d'un engagement social parallèle à l'ALENA. Alors, plusieurs possibilités ont été présentées devant les instances dirigeantes américaines. On pourrait trouver certains qui défendaient un modèle à l'européenne avec une charge sociale continentale, hein, quelque chose d'assez peu probable, demande de mécanismes de pétition, possibilité de sanctions, tribunal arbitral indépendant, tout ça c'est des choses qui vont être en partie reprises, et quelque chose qui a émergé d'une des principales têtes de la coalition, hein, l'ILRF, une ONG qui s'occupe de la question des droits du travail, a proposé la chose suivante: le Mexique est bien doté en normes du travail, sa constitution et ses lois du travail sont très performantes, beaucoup plus performantes à la lettre par rapport à celles des États-Unis. Pourquoi ne pas simplement proposer que le Mexique respecte ses propres normes du travail, hein, qui sont réellement, si on regarde sur le papier, très enviables. Hein, donc l'idée était de baser ce discours-là autour d'un certain nombre de conventions de l'OIT qui sont toutes signées par le Mexique et que le Mexique est supposé s'engager à respecter. Et cette initiative-là, hein, ce sera la proposition dans la négociation des États-Unis. Les États-Unis vont reprendre, hein, ce que proposait ce groupe-là, essayer de l'envoyer vers ses partenaires dans la négociation. Bien évidemment, ça va être de façon générale une fin de non-recevoir. Les milieux d'affaires et les républicains qui étaient très enthousiastes à l'égard de l'ALENA vont être très réticents à des engagements trop forts. Le Mexique et le Canada vont tout faire pour éviter le plus possible à ce que les questions de normes du travail viennent interférer avec le libre-échange. Et la conclusion de ça, ça a été l'ALENA telle qu'on a pu le voir, hein, telle qu'elle s'est formée, à savoir un gros morceau constitué des bureaux administratifs nationaux, hein, qui sont donc dans chaque pays les bureaux qui sont chargés, entre autres, de recevoir les plaintes concernant le non-respect des normes du travail. La liste des 11 droits que j'ai passée rapidement, hein, qui vient en quelque sorte offrir une base sur laquelle les pays s'engagent à respecter leur propre loi nationale. Et un secrétariat de l'ANACT relativement léger, avec très peu de pouvoir, tout ça dans la perspective où les Canadiens, les Mexicains étaient très peu, d'accord, très peu enthousiastes à céder la souveraineté à l'égard d'instances considérées comme supranationales. Donc, c'est une structure assez légère avec plutôt de la coopération interministérielle, des bureaux administratifs nationaux, qui sont les principales instances, et des structures, un secrétariat trinational, avec très peu d'autonomie. Et donc ça, c'est ce qui va se passer. Ça va être extrêmement difficile à faire passer aux États-Unis, et les acteurs qui ont fait la promotion de cette initiative ont été bien évidemment déçus par le résultat et le débouché de la NAFTA. Si on regarde ce qui s'est passé, ce qui s'est produit durant les 20 années, on peut faire un bilan institutionnel qui va nous permettre de voir finalement quelles ont été les conséquences logiques de cet accord-là. Alors, premièrement, il y a un volet coopération dont on ne peut pas nier qu'il a produit un certain nombre de résultats en termes de recherche, en termes de compréhension mutuelle des différents codes du travail. Je ne vais pas faire le détail, mais on peut voir que sur de nombreuses questions, particulièrement la santé et sécurité au travail, il y a eu tout un ensemble de rapports de recherche, de comités visant à trouver des conclusions concernant la comparaison qu'on peut faire sur les différents codes du travail et leur respect respectif par rapport aux engagements pris au sein de l'ANAF. Par ailleurs, le gros morceau, celui qu'on considère généralement comme important dans ce genre d'initiative, à savoir la capacité à aller vers un règlement différent, c'est un système extrêmement compliqué à manœuvrer. Il y a tout un ensemble d'étapes. Il faut d'abord passer par le bureau administratif national, puis ensuite la consultation ministérielle, le comité d'experts et éventuellement un panel arbitral qui arrive à la fin de ce processus. Alors, du point de vue donc, de ces questions de règlement des différends, on peut voir qu'il y a eu quand même un certain nombre d'initiatives qui ont pu être menées. Si on regarde, il y en a au total 36. De ces 36, il y en a 16 qui sont allés jusqu'à la consultation ministérielle, seulement 3 en direction du comité d'experts et aucune vers un mécanisme de règlement des différends. Ce tableau vient contraster avec, par exemple, la situation dans le cas du chapitre 11 sur les investissements. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu une activité qui a été loin d'être complètement négligeable, qui a permis, dans un certain nombre de cas, à des syndicats, des organisations non gouvernementales, de faire avancer, de publiciser un certain nombre d'abus de droit du travail et en arriver à d'accord d'en arriver à des règlements autrement que par donc des règlements des différents juridiques. J'en terminerai, puisqu'il me faut terminer, que il y a deux éléments qu'il faut mentionner. Bien évidemment, il y a tout un tas de critiques qui arrivent essentiellement, pour résumer, c'est que c'est un mécanisme extrêmement faible qui a eu très peu d'impact sur les conditions de vie et de travail, en général, du point de vue des trois pays de l'Amérique du Nord, sachant que ce point de vue va être nuancé par un certain nombre de considérations dont on peut dire qu'il a permis la coopération, la mise en place de structures de coopération entre les différentes instances syndicales et associatives dans les trois pays, et qu'il a permis de construire, en quelque sorte, de bâtir un certain nombre d'alliances qui ont aussi débouché sur la mise à jour de pratiques antisociales de certaines entreprises, quand bien même ça reste peut-être un bilan mitigé. J'en terminerai cette fois-ci complètement en présentant deux choses. Voici la composition de la commission de coopération dans le domaine du travail. Ça, ça date il y a 5 jours. Donc voilà ce que c'est maintenant, cette commission. Vous voyez que l'activité en question, elle est réduite à sa plus simple expression. Et si on va sur le site du Bureau administratif national mexicain, erreur 404, Si on clique sur le lien du bureau canadien, on arrive sur un site de ministère qui n'a rien à voir. Le seul qui fonctionne encore, c'est celui des États-Unis. Il faut le souligner. Et en dernier lieu, concernant cette question-là, ça soulève un problème, c'est que l'ANACT, peut-être la question qui peut se poser, c'est peut-être pas la question du trop d'intégration que ça pose, mais c'est du pas assez d'intégration dans le domaine social. Et dans cette perspective-là, ce qui amènerait une réflexion supplémentaire sur ces questions-là, c'est de pousser plus loin peut-être cet internationalisme social de telle manière à rendre effectif la protection des droits du travail à l'image des droits accordés aux entreprises. Je vous remercie.